Vous écoutez, on lit pour vous.
L'emballage des fruits et légumes remis en question. Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 23 décembre 2024 dans la presse. Près de la moitié des fruits et légumes frais sont présentés dans des emballages plastiques à l'épicerie, une proportion qui pourrait être réduite sans trop d'efforts, estime un rapport fédéral. Mais les résultats pourraient se faire attendre. La moitié des fruits et légumes sont emballés avec du plastique, vraiment? C'est la conclusion d'un rapport préparé par la firme Value Chain Management International, VCMI, pour Environnement et Changement Climatique Canada. Le document obtenu par la presse, grâce à la loi sur l'accès à l'information, signale qu'environ 48 % des fruits et légumes frais vendus à l'épicerie sont présentés dans des emballages plastiques. Le rapport, daté du 18 avril 2024, a fait l'analyse de 40 fruits et légumes vendus à l'épicerie qui représentent 95 % des ventes dans cette catégorie d'aliments. Quels sont les fruits et légumes qui sont emballés avec du plastique? Sans surprise, les raisins, 100 % les baies, 99 % la laitue, 80 % et les champignons, 94 % sont parmi les produits les plus souvent emballés avec du plastique, note le rapport. Mais on retrouve aussi les oranges, 58 % les avocats, 65 % les céleris, 47 % et l'ail, 58 % dans cette liste. Pour quelles raisons emballe-t-on ces produits avec du plastique? La réponse varie selon le type de fruits ou de légumes en cause, signale-t-on. L'emballage peut servir à protéger un produit pendant son transport jusqu'au point de vente ou encore à éviter la contamination par différents agents pathogènes. Des aliments comme des raisins ont par exemple plus de risques d'être abîmés pendant le transport que des choux ou des citrons. Selon Sylvain Charlebois, professeur à l'Université Dalhousie à Halifax et spécialiste des questions agroalimentaires, certains produits ont aussi tendance à emballer leurs produits pour mieux les protéger afin de ne pas perdre de revenus. Pourquoi s'intéresser à cet enjeu maintenant? Le rapport de VCMI n'aborde pas la question, mais la pollution plastique est devenue un enjeu majeur partout dans le monde. Les gouvernements cherchent différents moyens pour réduire cette pollution, d'autant que les emballages utilisés pour certains produits comme les fruits et légumes sont à usage unique. Les données scientifiques sont claires. La pollution par le plastique est omniprésente. Elle nuit aux espèces sauvages et endommage leurs habitats, affirme Environnement et Changement Climatique Canada dans un courriel transmis à la presse. Pour Sylvain Charlebois, il était temps que cette question soit abordée plus sérieusement par les autorités. Les sacs de plastique utilisés par les consommateurs, c'était quasiment secondaire. Le vrai problème, c'est l'emballage, souligne-t-il. Quelles sont les solutions proposées? Le rapport suggère deux scénarios pour réduire l'usage d'emballages plastiques. Le premier, plus conservateur, permettrait de faire passer de 48 % à 36 % la proportion de fruits et légumes emballés avec du plastique dans un horizon de 3 à 5 ans. Le second ferait passer cette proportion de 48 % à 25 % dans un horizon de 5 à 10 ans. Dans les deux cas, ces changements ne nuiraient pas à la salubrité ou à la qualité des produits visés, estime la firme VCMI. Comment arriverait-on à atteindre ces cibles? Le rapport classe les différents fruits et légumes en fonction de leur robustesse et de leur degré de périssabilité dans quatre catégories. Les ananas, les citrons, les melons, les betteraves et les céleris se retrouvent ainsi dans la catégorie 1, tandis que les baies appartiennent à la catégorie 4. Les produits figurant dans les catégories 1 et 2 sont ceux qui sont les plus susceptibles de pouvoir se passer d'emballage plastique, note VCMI. Est-ce une solution réaliste? Tout est réaliste dans ce rapport, estime Sylvain Charlebois. Ce sont des cibles tout à fait raisonnables. On parle des ananas, des melons, qui sont emballés alors que ce n'est pas nécessaire. Même chose avec les légumes. Oignons, céleri, tous les produits durs. Le chou, par exemple, ce n'est pas nécessaire de l'emballer. Selon l'expert, il y a aussi une certaine culture à changer par rapport à l'emballage plastique. Une réglementation pourrait jouer un rôle important, parce que les règles seraient les mêmes pour tous. Si tout le monde doit gérer le même règlement, se rallier au même standard, ça va être plus facile pour les producteurs. C'est pour bientôt, cette réglementation? Depuis que la Cour fédérale a invalidé un décret d'Ottawa indiquant que les articles en plastique pouvaient être toxiques, Environnement Canada avance prudemment dans ce dossier. La décision du tribunal faisait suite à un recours judiciaire intenté par des entreprises productrices de plastique, appuyées par l'Alberta et la Saskatchewan. Le ministère continue à travailler aux côtés des provinces et des territoires, des partenaires et des intervenants dans des domaines prioritaires afin de prévenir les déchets de plastique et la pollution et de favoriser une économie circulaire, a indiqué Environnement Canada dans un courriel transmis à la presse. C'était « L'emballage des fruits et légumes remis en question », un texte d'Éric-Pierre Champagne paru le 23 décembre 2024 dans La Presse.
Et si les parents pouvaient aider les enseignants à ne pas décrocher? Un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 19 mars 2024 dans La Presse. Quand 5 directeurs d'écoles publiques et privées se libèrent in extremis au beau milieu du tourbillon quotidien, vous comprenez que le sujet abordé leur tient à cœur. On sait déjà que trop d'enseignants démissionnent, tant leur charge de travail est lourde. Mais on se demande rarement si les parents peuvent réduire leur envie de déserter. Les directeurs interrogés se sont montrés unanimes. Oui, les parents peuvent faire une différence. Car même si les enseignants passent l'essentiel de leur temps en classe, ils interagissent chaque semaine avec des mères et des pères. Et ces discussions, parfois chargées d'émotions, peuvent les accaparer de longues heures à certaines périodes de l'année ou dans certaines matières. Malgré tout, avant leur stage, les nouveaux enseignants ne sont pas préparés à ces échanges qui les stresse et requiert donc du mentorat, précise Guylaine Côté, fraîchement retraitée de la direction générale du Collège Nouvelle Frontière, un établissement privé de Gatineau. Personnellement, je prévenais toujours les parents. Vous savez que l'école n'est pas le prolongement de la maison. Il peut y avoir des valeurs qu'on ne partage pas à l'école, et vice-versa, dit-elle. La directrice de l'école secondaire Joseph-François Perrault, située dans le quartier Saint-Michel à Montréal, doit elle aussi tempérer certaines attentes irréalistes. On rappelle aux parents qu'on ne peut pas gérer 1500 élèves comme ils gèrent leurs 2 enfants à la maison, expose Julie Dessureau. La meilleure façon d'aider les enseignants? Collaborer plutôt que contester, dit-elle. Faire équipe pour rechercher des solutions fait toute la différence. C'est important que les parents soient ouverts à entendre un autre point de vue que celui de leur enfant. C'est aussi le message du vice-président de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, Stéphane Richard. L'enseignant a besoin que le parent l'appuie, qu'il lui fasse confiance, pas qu'il le discrédite ou tente de se substituer à lui pour donner raison à l'enfant. Si l'enseignant dit « Votre enfant a été impoli, ça se peut », même s'il n'est pas impoli à la maison, il s'essaie dans d'autres sphères de la vie. Des parents rebelles. Autre enjeu crucial, le respect des règles de l'école par les parents. Au moins 80% du temps, quand un cellulaire sonne en classe, c'est un parent qui téléphone parce qu'il a raté l'appel de son enfant et pense que ça devait être important, indique Madame de Sureau. Mais à cette heure-là, papa, on est rendu en plein cours de mathématiques et ce n'est pas le moment. Même si son école l'interdit, des parents roulent aussi dans les stationnements pour déposer leur enfant à proximité des portes plutôt qu'au débarcadère, en faisant fi de la sécurité des centaines d'autres élèves qui traversent le même espace à pied. Des fois, on essaie d'intervenir avec un beau sourire, mais les parents ne veulent pas s'arrêter et baisser leurs vitres pour nous parler. On se dit « Mon Dieu, vous faites ça devant vos enfants. On peut bien avoir de la misère avec eux après ça », suggère Julie Dessureau. Christian Lacombe, qui dirige l'école primaire Saint-Martyr canadien dans le quartier Hantzik à Montréal, observe le même phénomène. Les stationnements, c'est fou, ça mériterait un article entier, lance-t-il. On doit sortir de l'individualisme et comprendre que l'école est une petite société, une structure, et qu'il faut que ça roule. Si on a 20 enfants qui arrivent en retard ou 20 enfants qui oublient leur boîte à lunch ou leurs souliers, ça dérangera le personnel et la classe 20 fois. Une minorité. La situation évolue-t-elle? Il y a 15 ans, on voyait déjà des parents qui pensaient que leur enfant était la 8e merveille du monde et qui voulaient jouer au justicier dès qu'on soulignait un manquement. Ça reste une minorité et ça dépend des milieux, répond Christian Lacombe. Notre époque d'instantanéité semble cependant plus propice au débordement d'émotions, remarque David Bowles, directeur général du Collège Charles Lemoine à Longueuil et président de la Fédération des établissements d'enseignement privé. Des gens vont rapidement écrire un courriel et ça crée parfois une relation un peu plus toxique. L'enseignant va se sentir attaqué. Alors, je suggère toujours, attendez donc 24 heures pour ne pas agir sous le coup de l'émotion. J'encourage les enseignantes et enseignants un peu découragés en leur disant « Regarde le nombre d'élèves que tu as comparativement au nombre de parents qui te créent des émotions négatives. C'est vraiment une minorité, peut-être 10% maximum, mais c'est des minorités qui occupent parfois la majorité de notre temps », souligne-t-il. Julie Dessureau le confirme. « Comme dans tout, 5% des parents nous occupent parfois plus de 50% du temps. Globalement, la grande majorité d'entre eux respectent l'école, soulignent toutefois nos interlocuteurs. Quand des enseignants tombent en maladie pendant l'année, on n'arrive pas à les remplacer aussi rapidement qu'avant, illustre Madame de Sureau. Mais les parents ont une grande indulgence. Je sens qu'ils comprennent le contexte et savent que l'équipe école fait tout ce qu'elle peut pour essayer de répondre aux besoins des élèves. C'était, et si les parents pouvaient aider les enseignants à ne pas décrocher? Un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 19 mars 2024, dans la presse.
Autoportrait au clavecin. Un texte de Catherine Perrin, paru le 23 mars 2024 dans la presse. J'évoque rarement mon instrument parce qu'il est clivant. Certains sont charmés, électrisés par ce son. Allô, Yves Pépeltier, Rosalie Vaillancourt. D'autres me disent poliment, on vous aime bien, mais pourquoi avoir choisi un instrument si désagréable? Aujourd'hui, je rends hommage au clavecin pour saluer la fin de ma modeste carrière d'interprète. Oui, fini les concerts. On est à l'ère de l'efficacité énergétique. La vie est courte et mon énergie est maintenant mieux employée ailleurs. L'instrument est encore là. J'en joue par plaisir, jamais plus par obligation. On pose souvent la question, pourquoi le clavecin? Dans le choix d'un instrument, il y a souvent le hasard, ou des aspects simplement pratiques. On joue de la guitare pour la traîner dans un parc ou au sous-sol. Elle accompagne une chanson connue. Elle permet d'en inventer une nouvelle. On joue du piano parce qu'il y en a un chez une amie. De la flûte à bec parce que l'école l'impose. Déjà, pour le violon ou le violoncelle, il faut un dosage de volonté et de persévérance plus complexe. Des parents déterminés, un enfant allumé et discipliné. Alors, imaginez un peu le drôle de chemin qui fait qu'une adolescente choisit un jour le trombone, la contrebasse ou le clavecin. Il y a toujours une composante de hasard et une autre d'identification. On croise l'instrument, par hasard, et le corps se reconnaît soudain, trouve ses repères, établit un dialogue naturel. Quand j'avais 10 ans, mon père a pris en tutelle un petit clavecin en piteux état, abandonné par un de ses amis, parti vivre en France. Cet architecte mélomane et original l'avait construit à partir d'un kit. OK, déjà un gros coup de pouce du destin. Plus encore, un professeur de musique de ma polyvalente, Hermel Bruno, était un des rares clavecinistes de la ville de Québec et il m'a fait découvrir les charmes de l'instrument. Je suis entrée dans la classe de clavecin du conservatoire à 13 ans. Pause ici pour crier haut et fort que l'enseignement au conservatoire est gratuit pour les jeunes. Au moins, un peu de talent et beaucoup de détermination, c'est le prix à payer. En 4e secondaire, devant composer un autoportrait en classe de français, j'ai écrit ce petit poème maladroit, mais étrangement toujours vrai. Je suis faite comme un clavecin, de timbres minces et allongés, de nuances et de phrasés, et d'une maudite dignité. Mes os s'étirent et se prolongent, en cet instrument fragile, duquel jaillissent en double croche les boucles croches de mes cheveux. Bac est toute ma sagesse, couperin ma tendre folie. Oui, c'est l'instrument de Bac qui lui confie des défis de haute voltige mathématique, demandant une concentration de feu pour ne rien échapper dans une fugue à 4 voix. Il sait aussi créer un mouvement perpétuel, une onde sonore où chaque son se détache. C'est l'instrument des Couperin, une dynastie de Parisiens. Si François Couperin a inventé le bon goût et la délicatesse, déclinés en quelques centaines de courtes pièces, son oncle, Louis Couperin, au XVIIe siècle, a été le maître d'un genre intrigant, le prélude non mesuré. Aucune barre de mesure, des grappes de notes, parfois réunies sous de grandes lignes courbes, des détours mélodiques très bizarres, plonger dans ses œuvres et en comprendre le flot a été un plaisir intense de la fin de mon adolescence. On a l'indie folk qu'on peut. Désespérément sec et menu dans une grande salle moderne, le son du clavecin peut maintenant être discrètement amplifié pour reprendre vie. Pas de honte! Mick Jagger ou Jane Birkin n'auraient jamais chanté sans leur micro. Mais quand l'instrument que j'aime se retrouve dans une acoustique favorable, avec du bois et un espace bien proportionné, il peut tout dire, tout exprimer. Ici, c'est un caractère sombre et fier, à la Carmen, avec une énergie presque flamenco. Férocement agréable à jouer, je vous l'assure. Chaque son est le produit d'une corde pincée, véritable petite explosion d'énergie. J'ai toujours aimé le clavecin qui a des dents, qui découpe le temps, comme le hi-hat de drum dans un concerto brandebourgeois de Bach ou dans un tango de Piazzolla. Mais le plus beau défi, c'est de toucher le clavecin, comme le disaient les anciens Français. Le rendre sensuel, comme si le doigt lui-même pinçait la corde avec sa pulpe. C'est là qu'il touche au cœur et s'y inscrit pour toujours. C'était « Autoportrait au clavecin », un texte de Catherine Perrin, paru le 23 mars 2024 dans La Presse.
De l'incivilité aux communes, un texte de Mélanie Marquis, paru le 11 juin 2024 dans La Presse. Cinglés, incompétents, marionnettes. Les écarts de langage ont été légion ces derniers mois aux communes. Les conservateurs de Pierre Poilievre en particulier en font leur chou gras sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était mieux dans le temps? Est-ce moins prononcé ailleurs? Et puis, les gens aiment-ils la chicane? Décryptage pré-estival. De la télévision aux réseaux sociaux. Dès le premier jour où les caméras de télévision ont fait leur entrée à la Chambre des communes, le 17 octobre 1977, le réseau CBC a fait allusion à un virage vers la politique spectacle. Pierre-Éliott Trudeau a adoré cela et il l'a démontré en occupant la part du lion de la diffusion, relatait ce jour-là un reporter dans un compte-rendu de cette première historique. Près de 5 décennies plus tard, c'est sur les réseaux sociaux que les élus affichent leurs prouesses. Dans le camp conservateur, on est passé maître dans l'art de publier quasi instantanément des séquences vidéo des débats. Cette quête de clics n'est toutefois pas sans péril. Il vient à l'esprit le cas de Rachel Thomas, qui a été contrainte de s'excuser après avoir demandé à la ministre Pascale Saint-Onge de lui répondre en anglais. Des clics à profusion. Génère-t-il un tas de clics? C'est clair. Mais X n'est pas représentatif de la population du Canada, fait valoir un libéral qui a requis l'anonymat, n'étant pas autorisé à s'exprimer ouvertement sur des enjeux de stratégie. Là où ils ont un avantage en quelque sorte, c'est qu'ils ne s'encombrent pas des nuances ou des faits, constate la même personne. Ils utilisent du langage grossier et ils répètent les mêmes lignes succinctes. Ajoutez à cela le fait que le Parti conservateur nage dans l'argent des dons politiques et que l'équipe de communication numérique de Justin Trudeau est ridiculement petite, et l'avantage va nettement à la formation de Pierre Poilievre à ce chapitre, conclut le même tacticien libéral. Ottawa contre Québec. Coincés entre deux feux, les députés bloquistes sont condamnés à se comporter comme les adultes dans la pièce, plaide le leader parlementaire de la formation en chambre, Alain Terrien. À l'instar des conservateurs, les bloquistes publient eux aussi certaines interventions sur les réseaux sociaux, mais on ne fait pas de spectacle, argue-t-il. Anciennement élu péquiste à l'Assemblée nationale, Alain Terrien trouve que le format de la période des questions au Salon Bleu se prête davantage à la reddition de comptes. Mais la grande différence réside dans le fait que les acteurs dans l'arène ne sont pas les mêmes, croit-il. L'opposition officielle à Québec ne dit pas n'importe quoi. Ici, c'est monstrueux. Le pire, c'est qu'ils, les conservateurs, n'ont même pas l'air gênés. Une vieille tradition d'insultes. Ancienne ministre sous Jean Chrétien, Sheila Copps se branche encore sur la période des questions. Celle qui faisait partie du fantasque Rad Pack, un groupe d'élus qui prenait un malin plaisir à étrayer les députés de Brian Mulroney, relève que les excès langagiers pimentent la joute parlementaire depuis belle lurette, qu'on le veuille ou non. On m'a traité de pute. Donc, par rapport au terme, je ne trouve pas que c'est pire maintenant qu'avant, exprime-t-elle. En 2011, le réseau CTV a d'ailleurs profité du fait que Justin Trudeau avait taxé le ministre Peter Kent de « tas de merde » pour dresser un inventaire de vulgarité parlementaire dont certaines remontent à 1893. La tension entre les députés est également exacerbée par le contexte, remarque Sheila Copps. On est rendu à la fin de la session, et l'autre chose, c'est qu'on est en situation de gouvernement minoritaire et le Parti conservateur veut vraiment avoir une élection parce qu'il est tellement en avance dans les sondages. La variable Fergus. La pause estivale sera certainement la bienvenue pour le président de la Chambre, Greg Fergus, dont la démission a été réclamée 3 fois en moins d'un an. Sa crédibilité est minée. Est-ce que ça contribue à une certaine animosité? Je pense que oui, fait valoir Rodolphe Hosni, un ancien stratège conservateur. Accusé d'être partisan, Greg Fergus se fait souvent chahuter par l'opposition lorsqu'il prend la parole ou qu'il rend des décisions. Le niveau de décibels a augmenté depuis qu'il a expulsé Pierre Poilievre de la période des questions en mai 2024. Tout est une question de confiance. La force de persuasion d'un président vient de sa légitimité et la sienne est minée, estime celui qui est maintenant analyste politique. Il n'y a pas, à la Chambre des communes, une liste noire d'expressions comme c'est le cas à l'Assemblée nationale. Des propos jugés non parlementaires un jour pourraient ne pas nécessairement l'être un autre jour, est-il écrit dans la procédure et les usages de la Chambre des communes. Le « waco » de la discorde avait déjà été employé, sans valoir de sanction à celui qui l'avait proféré, le néo-démocrate Peter Julian. Payant le crêpage du chignon? Les esclandres ont une certaine efficacité, note Manuel Quintin, doctorant au groupe de recherche en communication politique, GRCP, de l'Université Laval. Les interventions de ce style attirent l'attention des médias et de la population, mais elles mobilisent des gens qui sont déjà convaincus, expose-t-il. L'incivilité dans le débat politique n'a cependant pas la cote au pays, en particulier au Québec, enchaîne-t-il. Ce type de communication négative, axée sur l'attaque de l'adversaire, est perçu de manière globalement négative par l'électorat, puisqu'il s'agit d'un bris de normes sociales. Il y a un bémol. Les études permettant d'en venir à ces conclusions sont généralement réalisées en contexte électoral, et réaliser un sondage où les participants devraient dire s'ils apprécient la querelle comporterait un biais de désirabilité sociale, souligne le chercheur. Même dans un sondage, on essaie d'être désirable, et la norme sociale écrasante sur le sujet, c'est qu'on n'aime pas la chicane, vulgarise Manuel Quintin. C'était « De l'incivilité aux communes », un texte de Mélanie Marquis, paru le 11 juin 2024 dans La Presse.